Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouvel épisode où on reçoit une consoeur, collègue et amie, Chloé Chaperon, qui est psychologue clinicienne. Et Chloé, aujourd'hui, elle va venir nous parler de ce vaste et important sujet qui est le trauma, qui est l'épisode traumatique d'un point de vue psychologique. Donc, elle va nous expliquer en long, en large, en travers ce qu'est le trauma, ce que n'est pas le trauma. On va lui poser plein de questions. Merci Chloé d'être arrivée dans le podcast. Très contente de
t'avoir. Salut, merci à toi, je suis ravie et merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast.
Donc, grand plaisir. Avant qu'on s'attaque du coup à ce grand sujet de l'épisode traumatique, est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi, ton activité, ton parcours ?
Ok, alors donc je suis Chloé Chaperon, je suis psychologue clinicienne depuis maintenant 2014. J'ai travaillé en psychiatrie d'abord, en psychiatrie adulte quelques années, et puis maintenant je suis essentiellement en libéral. J'utilise différents outils, les thérapies comportementales et cognitives, la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est un petit peu une déclinaison quelque part des thérapies comportementales et cognitives, ou TCC pour les plus aguerris. Et puis, j'utilise aussi l'intégration du cycle de la vie, qu'on appelle l'ICV, et qui, là, traite en particulier la question du trauma.
Donc aujourd'hui, on te retrouve principalement en libéral ?
Ouais.
Du coup, région nantaise, si jamais il y en a qui sont dans la région.
Tout à fait.
Et en visio, oui, non ?
En visio, ça peut se discuter. Après, voilà, pour la question du trauma, la visio, j'aime un peu moins. Je pense que les approches psychocorporelles en face à face, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Mais bon, on peut toujours en parler.
Donc, comme ça, je le dis d'entrée, si au fur et à mesure de l'épisode, vous avez envie de contacter Chloé ou d'aller voir un peu ce qu'elle fait, je mets dans la barre de description associée à ce podcast, peu importe la plateforme où vous êtes, les liens pour pouvoir voilà la retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors, du coup, on va commencer par une question très large. C'est quoi un traumatisme psychologiquement parlant ?
Alors, déjà, je pense que c'est important de dire avant toute chose que si une personne se sent pas bien à l'écoute de ce que je suis en train de dire, surtout qu'elle arrête d'écouter et qu'elle n'hésite pas à prendre rendez-vous à quelqu'un. Voilà, je voulais juste mettre cette petite parenthèse. Voilà, donc je vais vous parler de la question du trauma de manière assez large. Et pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est de penser à la question du souvenir. En fait, on va dire qu'un souvenir normal, c'est un souvenir qui peut être facilement intégré par le cerveau. Et du coup, j'ai conscience rapidement de ben voilà, ce souvenir-là, il m'appartient, il m'est arrivé et maintenant je sais que c'est terminé. Le souvenir traumatique, c'est plus compliqué que ça. Il est un petit peu comme encapsulé et il va se réveiller parfois de manière inopinée. On va dire que c'est comme si le cerveau, la région plus particulièrement de l'hippocampe, ne pouvait pas faire son travail de digestion de ce souvenir-là. Et donc, ça va réveiller finalement l'amygdale, qui est une partie qui s'occupe de la peur, de la question du danger. Et du coup, de manière inopinée, bah, dès qu'il va se passer quelque chose qui va ressembler à ce souvenir traumatique, ça va se réveiller et ça va venir me créer bah, peut-être des flashbacks, peut-être des cauchemars ou mon rythme cardiaque qui va s'accélérer. Voilà. Donc, c'est finalement la question d'un souvenir qui n'est pas suffisamment bien intégré dans le corps et qui se réveille chaque fois que, de près ou de loin, il y a quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu de traumatique.
Et alors, justement, à partir de quand, de quoi est-ce qu'on peut parler de trauma ?
Ben là, la question, elle est très compliquée parce que finalement, c'est hyper personnel. Dans le DSM, qui est notre manuel diagnostique et statistique des soignants, on va dire, qui est plutôt américain, eux, ils catégorisent ça vraiment en parlant ben, voilà, de moments où on a été confronté peut-être à la mort, malheureusement, témoin, où on a eu peur de mourir ou bien plutôt des traumatismes d'ordre sexuel. Voilà, donc là, c'est clair et net que ça fait effraction, on va dire, dans le reste de notre vie. Enfin, on voit bien qu'il y a un événement anormal dans le reste de notre vie. Ça, On peut parler de trauma de type 1. Bon, je suis désolée, hein, je vais un peu dans le jargon, mais le type 1, on va dire que c'est ça, c'est un événement isolé par rapport à le reste de ma vie où c'est OK, on va dire à peu près. Par exemple, j'ai un accident de voiture, bon ben voilà, je peux avoir eu tellement peur qu'il se passe quelque chose de grave pour moi, que maintenant, dès que je vais remonter dans une voiture, ben, je vais avoir mon rythme cardiaque qui va s'accélérer. Enfin, c'est un peu comme si j'étais encore confrontée à cette idée de mort, finalement. Ça, c'est quelque chose d'isolé parce que dans le reste de ma vie, on va dire que ça fonctionne bien, c'est OK. Donc, il y a deux solutions pour ce trauma de type 1. Soit ça fait un état de stress aigu. Ça veut dire que pendant un mois, je crois, on dit que ça dure un mois. Ben voilà, je suis pas très tranquille, c'est normal, j'ai vécu quelque chose de difficile, mais ça se résout tout seul, finalement, au fur et à mesure, ma vie reprend, j'ai des amis, j'en parle à mon conjoint, bref, le fil de ma vie peut reprendre normalement, ça s'intègre tout seul. Mais il peut arriver que ce soit pas le cas et que du coup, comme je le disais tout à l'heure, je remonte dans ma voiture et à nouveau, je sois activée, là, ça s'intègre pas. Par contre, c'est quand même toujours un trauma de type 1 parce que c'est un trauma isolé dans le temps. Ensuite, donc, comme je le dis, soit quelque chose peut faire trauma ou quelque chose peut ne pas faire trauma, même s'il y a un événement qui est quand même considéré comme grave. C'est pas automatique que ça fasse un état de stress post-traumatique. Ensuite, il y a les traumas plus qu'on appelle de type 2, qui malheureusement, eux, sont plus répétés dans le temps. Ça concerne malheureusement souvent l'enfance, les figures d'attachement avec lesquelles on a vécu, dans des relations un petit peu compliquées où notre figure d'attachement qui est censée prendre soin de nous quelque part est peut-être imprévisible ou bah, su suscite finalement la peur alors qu'elle est censée susciter bah, l'amour, le soin, etc. Et là, ça va être beaucoup plus insidieux à repérer. Je pense qu'il peut y avoir des manifestations de type dissociation, ce genre de choses. Donc, la dissociation, ça va se caractériser pas mal par ces histoires de cauchemars, ces reviviscences, sensation de plus être totalement bien connecté avec son corps. Ça, c'est des symptômes de dissociation. Donc, on peut voir ce genre de symptômes en arriver. Mais les personnes peuvent avoir des difficultés à se dire, bah, j'ai vécu ça parce que finalement, c'est tellement la norme, c'est tellement ce dans quoi j'ai été baignée, c'est tellement répété que je ne sais pas finalement ce qui existe ailleurs. Donc, c'est plus difficile à repérer pour soi, finalement. Pour un clinicien, c'est moins difficile à repérer, mais pour sa propre histoire, c'est compliqué parce qu'encore une fois, on n'a pas d'autres référentiels.
Certainement une question que les auditeurs auditrices peuvent se poser, et en même temps je ne suis pas sûre que tu puisses y répondre, mais tu auras peut-être des éléments de réponse. Comment ça se fait, entre guillemets, on va parler un peu résilience, hein, comment ça se fait que le sujet A, il tourne pas à ta stress post-traumatique et que le sujet B, il tourne à ta stress post-traumatique?
Oui, c'est une question qui est hyper intéressante. Alors, les études montrent quand même qu'il y a des facteurs de protection. Et les facteurs de protection, c'est Cyrulnik, je crois, qui les a mis en évidence pour la résilience, hein. C'est bah, le fait d'avoir un attachement de type sécure. Un attachement de type sécure, ça veut dire qu'on a été, bah, voilà, on a pris suffisamment soin de nous, on a acquis un sentiment de valeur personnelle. Et en plus, en conséquence, avec un attachement de type sécure, on va avoir pas trop de difficultés à créer du lien avec les autres. Donc, on aura un tissu relationnel de qualité. Et puis, en plus, on va être capable de demander de l'aide. Donc, si rapidement, j'ai mon soutien social qui se met en place, si en plus, à l'intérieur, je suis assez solide, il y a des chances pour que je ne fasse pas un état de stress post-traumatique. Alors que, en effet, si j'ai un attachement un petit peu plus, ben, je sais pas, évitant, par exemple, donc ça veut dire, ben, là, pour le coup, j'ai du mal à demander de l'aide, j'ai un peu appris qu'on pouvait compter que sur soi-même, ben là, ça veut probablement dire que, en effet, au niveau de mon estime de moi, au niveau de ma régulation émotionnelle aussi, ça va être plus difficile de manière générale, et donc j'ai plus de risque, en effet, de faire un état de stress post-traumatique. Et on va le voir, on va voir des personnes qui peut-être sont plus enclins à avoir bah, des addictions, des troubles alimentaires, ce genre de comportement qui viennent parler d'une difficulté de régulation émotionnelle qui était quand même préexistante au trauma, vraiment au moment où on a pu repérer la rupture avec le reste de la vie.
Et alors du coup, concrètement, on observe, enfin, on peut observer quoi comme conséquence quand on a vécu un trauma sur le quotidien?
Alors, là encore, est-ce qu'on parle de trauma de type 1 ou de type 2?
Alors, on va commencer avec le trauma de type 1.
Voilà, tout à fait. Donc, pour le trauma de type 1, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, j'ai mon accident de voiture. Eh bien, ensuite, dès que je reprends une voiture, j'ai des manifestations de peur, comme si j'allais être de nouveau confrontée à l'idée de mort. Donc, rythme cardiaque qui s'accélère, tous les symptômes finalement sympathiques, je crois, du système nerveux sympathique, donc rythme cardiaque, pression artérielle qui augmente, des tremblements, peut-être des flashbacks de ce qui s'est passé, peut-être que je vais avoir des cauchemars. Et puis ensuite, il va y avoir tout un tas d'évitements. Bah, du coup, je vais plus oser prendre la voiture. Et puis ma vie va un peu se restreindre comme ça. C'est surtout ce genre de symptômes qu'on observe pour les traumas de type 1. Donc c'est ce que je disais, voilà. Peut-être plus facile quand même à détecter que pour le trauma de type 2, où là, bah, c'est à nouveau ce dont on parlait tout à l'heure. On va être peut-être plus sur des symptômes type soit dépersonnalisation, dissociation, soit difficulté de régulation émotionnelle avec des addictions, des troubles alimentaires. Ça nous met un petit peu la puce à l'oreille sur un trauma de type 2.
Alors, j'ai une question super importante. C'est que parmi ceux qui nous écoutent là, il y en a peut-être certains qui ont la sensation d'avoir vécu quelque chose de traumatique dans leur vie, peut-être parce qu'ils ont des épisodes de dissociation, de déréalisation, de dépersonnalisation, parce qu'ils ont des cauchemars, parce qu'ils ont eu des TCA, enfin des troubles du comportement alimentaire, bref, peut-être plein de choses, peut-être même sans en arriver là, mais l'intuition qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler du phénomène de l'amnésie traumatique? Parce qu'on en parle beaucoup. Donc, qu'on vienne un petit peu mettre de la clarté là-dedans. C'est quoi l'amnésie traumatique? Est-ce que c'est si fréquent que ça? Comment ça se fait que ça arrive? Le refoulement, tout ça, on t'écoute.
C'est compliqué. Alors, là encore, il faut repartir de la question du souvenir dont on parlait tout à l'heure, où le souvenir normal, il est facilement digéré. Le souvenir traumatique, lui, c'est pas le cas. Et en effet, il peut arriver qu'il y ait un mécanisme d'oubli parce que c'est tellement effractant pour le cerveau, ça a amené tellement, tellement de charges de cortisol que bah, finalement, il y a un mécanisme en effet qui se met super bien en place, qui fait que hop, le souvenir il est encapsulé, il est quelque part un peu dissocié de moi, mais il va quand même se réveiller et il va se réveiller de manière assez aléatoire. C'est des moments où on va pouvoir sentir qu'on est en train de se battre contre quelque chose. Et je pense que voilà, l'addiction, le trouble alimentaire, ça a cette fonction d'essayer de remettre le couvercle sur ce souvenir qui est en train d'essayer d'émerger. Maintenant, c'est quelque chose qui, je pense, enfin, quand on a ce sentiment, en tout cas, qu'on a vécu quelque chose qui pourrait être de cet ordre-là, je dirais que c'est toujours important de l'écouter et d'aller travailler en psychothérapie. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir un peu tendance à aller chercher son trauma de type 1, son gros truc voilà, qui explique ses troubles, son gros accident de voiture quelque part que j'aurais oublié. Mais comme on l'a dit, parfois, c'est pas de cet ordre-là. C'est plutôt de l'ordre d'une ambiance, mais qui n'est pas pour autant normale et qui nécessite d'être traité et qui va même peut-être être un peu plus compliqué à traiter parce que bah, c'est là depuis plus longtemps, ça a vraiment constitué une toile de fond de ce qu'on a vécu. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on peut parler d'amnésie, c'est là mais c'est pas là. Enfin, il y a quelque chose il y a des auteurs qui parlent du soi hanté, c'est vraiment ça, c'est comme s'il y avait un petit peu des fantômes dans le placard. Il peut aussi y avoir la question du transgénérationnel qui se pose. Enfin, après, la psychothérapie, de toute façon, c'est ça, on sait pas tellement ce qu'on va trouver. On ouvre un peu la boîte de Pandore et puis on part à la recherche de, bah, en effet, ce qui a pu se passer. Et l'objectif, après, c'est de pouvoir l'intégrer pour pouvoir se dire, OK, ça fait partie de mon histoire, mais maintenant c'est fini, je suis en sécurité. Et c'est ça qui est important finalement.
Alors, c'est vrai que là, pour ceux qui nous écoutent, peut-être, c'est souvent un effet de la transmission du DSM où on peut avoir un peu l'impression que soit c'est A, soit c'est B, soit c'est noir, soit c'est blanc, voilà. Est-ce que c'est possible que, par exemple, on ait quelqu'un qui ait vécu dans un climat qui aurait mené à un trauma de type 2, un climat incestuel ou incestueux, mais que on ait un épisode particulièrement, par exemple un climat incestuel, donc comment on va expliquer ça simplement, du fait qu'il n'y a pas forcément d'acte incestueux, mais qu'il y a ce climat incestuel, et puis qu'un jour il y a un trauma, admettons d'ordre sexuel, soit incestueux, soit autre, et que du coup on a une espèce de combinaison d'un trauma 2 et d'un trauma 1.
Eh ben oui, c'est clair. Bah forcément, le trauma récent va venir en plus réactiver le trauma ancien. Ça c'est sûr. Donc il va falloir travailler probablement sur les deux, parce que probablement que si la personne vient en thérapie, on va pouvoir traiter d'abord, c'est ce qu'on fera de toute façon, on traitera le plus récent, et une fois que c'est parti, la personne, je pense, sentira que bon, il y a encore des choses à bosser. Mais oui, c'est clair et net que ça, que enfin, qu'il y aura une espèce de vase communicante, quoi.
Autre question peut-être où c'est important de préciser pour ceux qui nous écoutent, on peut avoir des addictions, des troubles du comportement alimentaire sans avoir un passif traumatique.
Oui, enfin, oui.
C'est important de le préciser, je pense.
Oui, mais ça vient parler de difficultés de régulation émotionnelle, et ça vaut le coup quand même d'aller se pencher sur pourquoi est-ce que c'est difficile de réguler nos émotions. Tu as raison, on va pas forcément parler de trauma là, mais bon, comment est-ce qu'on a validé mes émotions dans la famille? Comment est-ce qu'on les a accueillies? Maintenant, la question de quand est-ce que ça fait trauma, quand est-ce que ça fait pas trauma, elle est super vaste. Il y a tout le courant autour des violences éducatives ordinaires qui est en train de vraiment émerger. Et bon, moi, je trouve qu'en effet, l'invalidation émotionnelle du tout petit ou du petit, à proprement parler, on ne parle pas de trauma, mais enfin, quand même.
Oui, oui, oui.
Ça a des répercussions ensuite sur notre vie d'adulte, donc c'est quand même important.
Et alors du coup, par rapport à cette amnésie traumatique, alors je sais pas si t'as des chiffres à nous partager ou pas, mais est-ce que d'une manière générale, tu sais si c'est un phénomène qui est si fréquent? Parce que je trouve que des fois, on en parle beaucoup, des fois, sur les réseaux sociaux, et que peut-être, à l'inverse, il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont besoin d'être, à très juste titre, comme tu l'as dit, soutenus dans les intuitions, les ressentis, etc. Et à l'inverse, des fois, on se retrouve avec des personnes qu'on psychiatrise, entre guillemets, et qui vont partir du principe qu'en fait, il y a une amnésie traumatique, alors que des fois, peut-être pas. Alors, est-ce que c'est si fréquent que ça, ce phénomène d'amnésie traumatique ou pas?
Alors, très honnêtement, je n'ai pas de chiffres là. Maintenant, je trouve que le terme, en fait, c'est ça. Le terme fait peur. J'entends amnésie traumatique, ça fait un peu flipper. On imagine un truc, voilà. Le fait d'avoir vécu un trauma, il va y avoir un espèce de combat pour essayer de l'oublier. C'est tout. Et donc, oui, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, le vrai phénomène, comme on imagine dans les films, où il y a le souvenir qui nous revient d'un coup et qu'on avait complètement oublié, ça, je pense qu'en effet, c'est vachement rare. Et on, voilà, l'idée n'est pas d'imaginer qu'on a forcément vécu quelque chose de très grave. Mais on va essayer quand même de comprendre pourquoi on a ces symptômes et qu'est-ce qui explique dans l'ambiance familiale que ça se soit installé comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté de régulation émotionnelle? Pourquoi on a, je sais pas, pourquoi on vit toujours les mêmes échecs amoureux? Pourquoi au travail, c'est toujours les mêmes histoires? Ça vaut le coup d'aller quand même creuser, même si c'est pas le gros truc. C'est pas grave, en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit un trauma de type 1, encore une fois. Tout ce qui est le reste, c'est hyper important à creuser.
Alors justement, en parlant d'état de stress post-traumatique, donc tu nous as expliqué tout à l'heure que c'était pas systématique, c'est pas parce que j'ai vécu un épisode traumatique ou un climat, entre guillemets, traumatique, que forcément je tourne à état de stress post-traumatique. Mais il y a quand même des cas qui sont, enfin des situations qui vont mener à ce phénomène-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce fameux état de stress post-traumatique ESPT qu'on entend partout? Concrètement, c'est quoi? C'est quoi les manifestations? À quoi ça ressemble?
Alors, c'est tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai quelque chose qui, objectivement, est un stresseur. Donc, j'ai un événement qui m'arrive dans ma vie où je suis potentiellement confrontée à la mort ou témoin. Enfin, quand je dis confronté à la mort, c'est oui, témoin de la mort, ou j'ai eu peur de mourir de manière imminente, ou un trauma de type sexuel, des attentats, enfin voilà, tout ça, hein, malheureusement, c'est vraiment des traumas collectifs qu'on connaît bien. Je peux développer, encore une fois, on disait, un état de stress aigu, c'est-à-dire pendant quelques temps, pendant un mois, je me sens pas bien, j'ai peut-être des difficultés à dormir. C'est complètement normal. J'ai vécu quelque chose de difficile et complètement normal que je mette du temps à vraiment me remettre. Maintenant, si ça dure plus d'un mois, c'est là où on parle d'état de stress post-traumatique. Et les symptômes sont les mêmes que ceux qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les cauchemars, les reviviscences, les flashbacks, les troubles du rythme cardiaque, les tremblements, qu'est-ce que j'ai oublié, les troubles du sommeil, les évitements, pardon?
Non, je te disais comportement d'évitement, ouais.
Oui, tout à fait, voilà, les évitements des situations qui ressemblent de près ou de loin. Il peut y avoir ensuite des difficultés à travailler, des difficultés à même à sortir de chez soi.
Du coup, dans toute cette question du trauma, concrètement, si je t'écoute, je suis concernée, je pense être concernée, bon, d'une manière ou d'une autre, c'est qui les interlocuteurs vers qui on peut et on doit se tourner?
Alors, il y a pas mal de thérapies du trauma qui existent. La plus connue, c'est l'EMDR, donc Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Désolée pour mon anglais. Et du coup, cette thérapie-là travaille beaucoup avec les mouvements oculaires bilatéraux, c'est-à-dire qu'on va se souvenir du trauma et puis le thérapeute va nous aider à finalement le retraiter, remettre le cerveau en mouvement. C'est vraiment ça l'objectif des thérapies du trauma. Hein. C'est, on l'a dit, à un moment donné où il y a quelque chose qui s'est figé, l'hippocampe n'a pas pu faire son travail. Du coup, on va essayer de remettre en mouvement. Donc, le MDR fait ça très bien, très validé par la Haute Autorité de Santé. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'intégration du cycle de la vie parce que c'est une thérapie qui aussi aide pour le trauma type 2. Et puis pour le trauma type 1 aussi. Donc l'objectif de l'intégration du cycle de la vie, c'est un peu la même chose que le MDR, c'est de montrer à la personne que le temps est passé et qu'aujourd'hui c'est fini. En fait, c'est vraiment ça le trauma, c'est, je disais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était tout le temps réactivé, quelque chose qui nous hantait en permanence. C'est le corps qui n'a pas compris que l'épisode est terminé. Mon exemple de l'accident de voiture, j'y retourne. Si je fais une séance en ICV sur cela, alors je vais entendre plusieurs fois, une fois que je suis sortie de la voiture, quand peut-être les pompiers sont arrivés, puis ensuite quand j'étais à l'hôpital, puis ensuite quand on m'a opérée, puis ensuite ma belle-sœur qui est venue me rendre visite, puis ensuite je suis sortie de l'hôpital, puis ensuite j'ai revu mon fils. Bref, et on va me raconter ça plusieurs fois, pour qu'enfin je réalise vraiment dans mon corps et plus seulement dans mon cerveau, parce que si on me le dit, cognitivement je l'entends, t'es sorti de la voiture, oui, super. Sauf que mon corps, lui, il n'a pas compris. Et si tu me le répètes plusieurs fois, tout ce que j'ai fait depuis, tous ces souvenirs qui sont réels, qui sont vraiment passés, au fur et à mesure, je vais avoir ma sensation de départ, ma sensation de c'est horrible d'être dans cette voiture, qui va vraiment se calmer, et mes sensations corporelles qui vont au fur et à mesure disparaître au fur et à mesure de ces répétitions. Voilà.
Et alors, comment on fait de l'ICV sur une amnésie traumatique? Comment on fait de l'ICV sur quelqu'un qui n'a pas la mémoire de ce qui s'est passé? De la mémoire,
c'est... Ouais. Non, mais c'est hyper important, là, ce que tu poses comme question, je trouve, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On va pas du tout travailler sur une impression de... Non, on va pas faire ça comme ça. On va travailler avec l'idée, peut-être qu'il y a eu quelque chose ou peut-être pas. J'en sais rien. On va partir sur, en tout cas, ce dont on se souvient vraiment. Donc, ça voudra dire que je travaillerai plutôt sur le cours de la vie, parce que là, ce ne sera pas quelque chose de vraiment, vraiment identifié comme mon accident de voiture. Donc, je vais partir de jour 1, Donc, on va travailler. Je vais poser pas mal de questions autour de la naissance, si on sait, bah voilà, si on était un petit bébé désiré ou pas, quelle est l'histoire de la rencontre des parents, quelle est même l'histoire familiale. Voilà, on va avoir des informations transgénérationnelles peut-être, alors si la personne peut en avoir. Puis ensuite, ben, on va travailler qui est-ce qui s'est occupé de nous pendant les premiers jours de notre vie. Puis ben, après, on va partir sur des souvenirs explicites, parce qu'au départ, on n'a pas de souvenirs de 0 à 3 ans, c'est des choses qu'on nous a racontées. Donc on va plutôt parler de stades développementaux qu'on a tous vécu, c'est-à-dire, ben, voilà, je commence à me mettre à quatre pattes, puis debout, puis je marche, je parle, je cours, je demande pourquoi, bref, tous ces trucs qu'on a à peu près fait, puisqu'on est là aujourd'hui pour discuter et pour se mettre debout. Donc ça, je suis sûre qu'on l'a vécu. Il n'y a pas de problème. Et puis après, je vais aller sur les souvenirs explicites de la personne. Alors, si on est dans le cas d'une amnésie traumatique, bah, ça voudra dire que peut-être je vais avoir pas beaucoup de souvenirs. Bah, c'est pas grave. Je prendrai avec ce qu'il y a. Et en fait, au fur et à mesure des répétitions, bah, c'est comme un voyage. Finalement, le puzzle se reconstitue. Et ah, tiens, j'ai un autre souvenir qui émerge. Puis je les rajoute au fur et à mesure. Et c'est ça le travail en psychothérapie qui peut faire émerger des choses. C'est, je relance la machine avec le peu de souvenirs que j'ai et on va voir ce qui vient.
Ça fait une bonne transition pour parler du transgénérationnel, qui est une question que j'avais pas prévue, mais juste avant ça, pour terminer sur la question des accompagnants et des accompagnements possibles quand s'il y a des personnes qui sont concernées ici, qui sont peut-être des fois un petit peu perdues entre les psychologues, les psychothérapeutes, les psychopraticiens, les thérapeutes, tout ce beau monde qui existe là. Donc, tu nous as parlé de l'EMDR. Donc, l'EMDR, c'est une thérapie qui est pratiquée par des psychologues
Ou psychiatre.
ou psychiatres. Ok. Donc, évidemment, dans les interlocuteurs de référence, outre le médecin généraliste, bien entendu, on a les confrères et consoeurs psychiatres, psychologues, du coup. Est-ce qu'on peut avoir d'autres praticiens, je pense notamment aux techniques psychocorporelles, de kinésiologie, etc., qui peuvent intervenir peut-être dans le parcours de recherche ou de prise en charge?
Alors moi, j'y connais pas grand-chose, honnêtement. Du coup, j'imagine que oui. Alors, si, ce que je sais, c'est que par exemple, les ostéos, etc., vont utiliser tout ce qui est en plus autour de la théorie polyvagale. Donc ça peut être intéressant en combinaison avec une psychothérapie. Je pense que je le mettrais, j'avoue, en combinaison. Et puis, j'imagine, oui, en kinésio, mais alors, je serais incapable d'en parler, honnêtement.
D'accord, ok. Alors, peut-être les confrères, consoeurs, psychologues qui font de l'hypnose aussi.
Oui, tout à fait.
Intéressant. Alors, effectivement, du coup,
EFT.
de l'EFT, ouais. Bon, voilà. S'il y en a parmi vous, peut-être
C'est
effectivement
large.
les confrères, consoeurs, kinésio, ou d'une manière générale, tous ceux qui travaillent autour du psychocorporel, ça peut être intéressant. Ceux qui travaillent autour de la thérapie familiale au sens large peuvent être intéressants
Oui,
aussi.
complètement. Complètement. Et puis des fois, on combine hein, plusieurs approches, ça peut être top aussi.
Eh bien, justement, en parlant de combiner différentes approches, tu m'as fait une belle transition. La question n'était pas prévue, mais je pense qu'elle est quand même intéressante et qu'il y en a plein qui doivent se la poser parmi ceux qui nous écoutent. Tu as évoqué tout à l'heure la piste du transgénérationnel. Alors, ma première question, alors déjà, je vais te laisser nous expliquer ce qu'est ce qu'est le transgénérationnel. Et ma question, peut-être pour ceux qui nous écoutent, ça serait, est-ce que c'est possible que je porte le trauma des générations, enfin de quelqu'un d'une génération précédente et que moi, je n'en ai pas vécu dans ma vie à moi?
Alors, la question du transgénérationnel, c'est beaucoup en France Tarquinio qui travaille dessus. Ça pose la question de l'épigénétique. En fait, selon certaines recherches, il semblerait que lorsqu'il y a trauma, cela viendrait modifier le caryotype. Et donc, forcément, ensuite, ben, la lignée aurait son matériel génétique qui serait modifié. Donc ça, c'est la piste scientifique. Et puis, en effet, enfin, je ne saurais pas te répondre noir ou blanc, finalement. À mon avis, c'est quelque chose qui mérite d'être creusé. Quand, par exemple, on est en thérapie et qu'il y a eu des histoires... Je sais pas de guerre, par exemple. Bah, je trouve que c'est super intéressant quand même de le noter, d'avoir ça en tête quand on a un patient qui Et je ne suis pas très réactivée par les histoires autour de la mort, qui aurait un trouble anxieux. Bah, faire un petit lien à ce niveau-là, c'est quand même, bon, c'est quand même une piste qui est quand même intéressante à creuser, quoi.
Alors du coup, on a évoqué plein de choses dans cet épisode, de ce qu'était le trauma, on a parlé de l'amnésie traumatique, on a parlé de l'état de stress aigu, de l'état de stress post-traumatique, on a parlé de transgénérationnel, on a parlé plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais oublié sur lesquelles te questionner et que tu aurais besoin ou que tu estimerais important de nous dire à propos de ces questions traumatiques?
Non, écoute, il me semble que c'était plutôt complet. Donc, non, bravo à toi. À mon avis, alors après, voilà, cette question, elle est hyper large et il y a probablement plein, plein de choses dont je n'ai pas parlé. Mais il me semble que pour une première approche, oui, c'est ça, c'est quand même OK, à mon avis.
Alors, il y a peut-être une dernière question qui
Ouais.
est, je pense à nos auditeurs, auditrices qui peut-être sont concernés. J'enfonce une porte ouverte, mais je pense qu'elle est importante à poser, cette question. Est-ce qu'on peut se soigner d'un trauma?
Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Les thérapies dont on a parlé tout à l'heure ont vraiment de très bons résultats. Alors après, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de magique. Il faudra prendre le temps. Il faudra prendre le temps de se poser. C'est vrai que bah, y a les thérapies brèves qui amènent vraiment l'idée que on peut vite résoudre les choses. Mais voilà, quand il s'agit de trauma, c'est pas vrai. C'est des thérapies qui durent quand même longtemps. Moi, j'hésiterais pas à dire que c'est autour de 6 ans, par exemple, hein, quand on est sur quelque chose de type 2. Enfin, quand il y a beaucoup, beaucoup de choses à enlever, en fait. Hein, parce que moi, je vois vraiment ça comme si on épluchait un oignon. L'idée, c'est d'aller se reconnecter avec son soi central et on va enlever les pelures d'oignon qui empêchent la connexion à soi, finalement. Avec toutes ces parties protectrices qui se sont mises en place parce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu différents traumas. Donc ça va prendre du temps, mais oui, c'est possible d'avoir une amélioration de qualité de vie. On va voir des personnes qui vont être mieux régulées au niveau émotionnel. On va voir des personnes qui vont être capables de beaucoup mieux s'affirmer. Parce que c'est ça aussi la question du trauma plus type 2. C'est aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est des difficultés d'affirmation de soi, des difficultés d'estime de soi qui vraiment pourrissent la vie au quotidien. L'impossibilité de dire, ben, je sais pas, à son patron, j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça parce qu'il y a quelque chose de, par exemple, trop paternel ou mon père était trop terrorisant pour que je puisse exprimer mes besoins. Et ça, c'est quand même des choses qui vont pouvoir être traitées rapidement en thérapie. Et en tout cas, ça mérite vraiment de le faire. Ça mérite de faire ce chemin pour avoir une meilleure qualité de vie, je pense.
Oui, ce que je me permets d'ajouter, tu commenteras hein, dans un sens ou dans l'autre, pour les personnes qui nous écoutent, hein, qui peuvent être concernées, c'est que bon, évidemment, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Si vous êtes concerné de près ou de loin, ou que vous pensez l'être, etc., comme disait Chloé, plutôt, même si on est dans le registre du ressenti, de l'intuition, de aller investiguer avec évidemment les thérapeutes qui vous parlent le plus et surtout en lesquels vous avez confiance, évidemment, pour voir peut-être. Comme tu disais tout à l'heure, on n'arrivera peut-être pas à la conclusion traumatique et peut-être qu'il y aura autre chose dans la question émotionnelle, dans la question familiale, etc. Mais au moins, vous aurez écouté cet élan, cet instinct. Je me rappelle d'un de mes profs de fac de psycho qui disait le corps a meilleure mémoire que la tête. C'est pour ça que je disais aussi que les approches psychocorporelles peuvent être peut-être intéressantes des fois en complément. Des thérapies plus cérébrales, entre guillemets, plus mentalo-émotionnelles, parce que le corps se rappelle bien, et notamment que dans la question amnésique, s'il y en a qui sont concernés, c'est pas parce que la tête ne s'en rappelle pas que le reste de l'organisme, lui, ne s'en rappelle pas. Donc les intuitions sont pas non plus fortuites, et enfin pas toujours fortuites, et pas toujours le coup de la coïncidence, du hasard, ou de je sais pas pourquoi c'est là. Et que l'inconscient a bonne mémoire. Et j'en avais beaucoup discuté avec une collègue qui est psychologue, criminologue, spécialisée sur ces questions-là et qui travaille en hypnose et qui le dit souvent de l'inconscient a bonne mémoire, mais l'inconscient joue pas a priori contre ton camp et donc il laissera pas non plus remonter des choses que la sphère psychique n'est pas en capacité après d'absorber, d'intégrer, comme tu dis avec ton vocabulaire d'ICV. Donc je crois que ça peut-être être tranquillisant aussi de se dire que comme tu le disais tout à l'heure, en fait, la reviviscence traumatique avec le flash d'un coup qui s'impose à toi, C'est quand même relativement rare parce que je pense que c'est quelque chose qui peut aussi être inquiétant, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as à commenter sur tout ça?
Alors oui, super, super intéressant. Alors ça me fait penser à deux choses dont j'ai pas parlé. Déjà, ça me fait penser à une référence bibliographique qui est géniale, qui fait complètement écho à ce que tu dis, qui s'appelle Le corps n'oublie rien. Je crois que c'est Van der Kolk qui a écrit ce bouquin qui est vraiment top et qui parle de tout ce qui est aussi yoga hein, dans le trauma. Vraiment super, super intéressant. Et deuxième chose que j'ai envie d'ajouter pour aussi rassurer sur cette histoire-là, d'amnésie traumatique, etc., c'est que le thérapeute que vous allez choisir, formé au psychotrauma, il doit respecter, enfin, c'est comme ça qu'on est formé, ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. C'est hyper important. On va plus traiter un trauma comme ça, tac, de but en blanc, etc. Il va y avoir tout un tas de travail de régulation émotionnelle avant. Et l'objectif maintenant, c'est vraiment que la personne reste, alors, un petit peu activée, oui, mais pas trop. Et du coup, on va travailler par palier comme ça, parce que la fenêtre de tolérance, au fur et à mesure qu'on travaille, elle va s'élargir. Ça va être possible d'aller un petit peu plus loin, mais ça va se faire très progressivement. C'est pour ça que maintenant, imaginez le gros truc qui sort d'un coup. Enfin, nous, en psychotrauma, on va vraiment éviter ça, hein, en fait.
Oui. Je crois que je sais plus ce que j'entendais la dernière fois. Ah oui, si, c'était une psychologue hein, qui disait ça, mais qui disait de toute façon le trauma, soit ça pète d'un coup, soit si ça pète pas d'un coup, c'est que c'est pas un trauma, quoi. Et bon, au-delà de ne pas partager cet avis, je me suis dit ça peut être inquiétant aussi peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que peut-être que du coup on a cette image de si j'ai fait une amnésie traumatique, ça va forcément me entre guillemets me péter à la tronche du jour au lendemain. Or, comme tu le disais, finalement, c'est assez rare, et c'est vrai que sur une structure psychique qui est quand même relativement bien foutue, et si elle est capable de refoulement, c'est qu'a priori, elle est pas trop mal foutue. L'inconscient va aussi, que vous l'entendiez au sens freudien ou au sens cognitif, hein, mais distiller, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, les informations, qu'elles soient visuelles, sensorielles, mnésiques, etc., en fonction de ce qui est capable d'être réceptionné, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi tout le travail de la thérapie, que ce soit côté EMDR, ICV, etc., permettre cette intégration petit à petit, finalement que vous en ayez in fine le souvenir mnésique ou pas.
Exactement. C'est ça. Finalement, on s'en fiche un peu.
Alors par contre, une question là à te poser, je remets un deuxième trigger warning sur celui qu'a mis Chloé au tout début, que si ma question est trop challengeante à écouter, coupée. Vous la reprendrez plus tard ou pas. Il peut peut-être y avoir la question des fois dont le souvenir est nécessaire pour engager des poursuites judiciaires, pour être témoin, etc. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Est-ce qu'on peut forcer entre guillemets un souvenir à remonter? Est-ce que on pourra pas faire ça? Est-ce que c'est pas une bonne idée de le faire?
Non, je pense vraiment que c'est pas une bonne idée de le faire. Si à partir du moment où c'est pas là, c'est pas là. Enfin, je veux dire, on va pas forcer le cerveau, en effet, à se souvenir de quelque chose qui peut pas encaisser. Donc non, j'irai vraiment pas là-dessus.
Bon, bah je crois qu'on a pas mal fait le tour quand même, pas de manière exhaustive. Est-ce que t'as parlé tout à l'heure de quelques auteurs? Est-ce que t'as peut-être des ressources vers lesquelles renvoyer nos auditeurs ou auditrices qui veulent en savoir plus sur ces questions traumatiques?
Alors oui, moi je conseille beaucoup les livres de Johanna Smith qui travaille en ICV. Donc il y a À la rencontre de son bébé intérieur qui est top. Il y a aussi, comment ça s'appelle? La puissance réparatrice de votre cerveau que j'aime beaucoup. Ou finalement c'est un peu un self-help book qu'on peut utiliser pour essayer peut-être déjà un peu tout seul de faire un peu le tri dans ce qui peut nous concerner au niveau trauma. Après, au niveau plus des émotions, il y a Tristesse, peur, colère de Stéphanie Ahusseau qui est vraiment un chouette bouquin aussi. Et puis Le corps n'oublie rien dont on a parlé de Van der Kolk, mais qui est peut-être un poil plus pointu, donc je sais pas, faut voir. Faut voir. Si on est passionné par la question, why not?
Oui, je crois qu'il y en a parmi nos auditeurs auditrices qui aiment vraiment beaucoup tout ça.
Alors, si on aime vraiment beaucoup, faut aller carrément vers Le Soi hanté, qui est le bouquin de référence. Je crois que là, c'est. Alors, Van der Hout. Van der. Voilà.
Bon, vous inquiétez pas, si vous tapez le soir hanté sur Google, vous devrez
ouais.
a priori pas trop tomber sur 25 bouquins différents.
A priori.
Moi, un bouquin que j'aime bien pour compléter, mais alors on est vraiment dans du technique, hein. Vous n'êtes pas dans un livre de plage qui est peut-être plus orienté sur les violences et notamment les violences sexuelles. C'est « Violence et abus sexuels dans la famille » de Reynaldo Perron, mais alors qui est un bouquin plutôt orienté là-dessus et qui est vraiment un bouquin technique, quoi. Donc c'est pas comme voilà, on est allé un peu crescendo du coup dans les lectures. Vous amusez pas à Reynaldo Perron si vous voulez explorer. Là, ça va être vraiment pour celles et ceux d'entre vous qui veulent préciser vraiment les profils, les comportements, etc.
Il y a Muriel Salmona aussi sur le même thème, qui est peut-être un poil plus abordable, qui s'appelle, je crois, « Violence sexuelle ». Pareil, c'est une psychiatre et qui est quand même une référence dans le trauma. Et c'est intéressant de la lire, je trouve.
Très bien. Bon, bah, vous avez du coup plein de lectures si vous voulez compléter. Vous pouvez retrouver Chloé du coup dans la barre de description ou l'article associé selon que vous soyez sur des plateformes d'écoute ou que vous soyez sur le site de Bien dans ta boîte. Chloé qu'on retrouve d'ailleurs dans le programme accompagnant pour la prochaine promo puisqu'elle passera en journée je sais plus où on t'a mis, en journée 6 je ne sais plus, et qui viendra nous parler justement du trauma à destination des professionnels de l'accompagnement pour savoir, j'en dis pas trop, mais pour pouvoir un peu mieux le repérer, le déceler, le réorienter s'il y a besoin, etc. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose, Chloé, avant qu'on conclue cet épisode?
Bah écoutez, que tout le monde prenne bien soin de soi.
Ouais. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et qu'on y voit un petit peu plus clair sur ce sujet important. Et à très bientôt. Merci d'avoir été là.
Merci à toi. À très bientôt.